Merci, nous avons fait un grand parcours au travers de l'œuvre du Seigneur en notre faveur, lui qui est venu vers nous. Nos voix n'ont peut-être pas été tout à fait à la hauteur de l'événement, mais le Seigneur s'est aussi regardé au cœur. Et donc, nous voulons maintenant méditer la parole qui nous est donnée. Et je vous invite à lire un texte dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au premier chapitre, les versets 6 à 12. De Timothée 1, versets 6 à 12. Paul parle à Timothée comme à un enfant spirituel en quelque sorte et lui dit « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par imposition de mes mains. En effet, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Il nous a adressé un saint appel, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Cette grâce qui s'est maintenant manifestée par la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit à rien la mort et mise en évidence la vie et l'impérissable par la bonne nouvelle. C'est pour cette bonne nouvelle que moi j'ai été institué héros, apôtre et maître. C'est aussi pour cette cause que j'endure ces souffrances, mais j'en ai pas honte, car je sais bien en qui j'ai placé ma foi, et je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder ce qui m'a été confié jusqu'à ce jour-là. Jusqu'ici, notre lecture. Le texte que j'ai choisi pour ce matin n'est pas particulièrement lié au temps de Noël, ni même à l'approche de Noël. Il parle pourtant de la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais j'ai choisi ce texte dans une autre perspective. C'est pour nous mettre un petit peu en résonance plutôt par rapport à une certaine ambiance de Noël. Noël, c'est le moment de l'année où tout le monde aime parler d'amour, où tout est beau, où tout est gentil. Les histoires de Noël sont toujours des histoires qui sont pleines de bons sentiments. Elles finissent toujours bien. Et c'est sûr, cela met en évidence le fait que Noël nous a apporté, la venue de Jésus-Christ à Noël, nous a apporté un tel message d'espérance qu'on se plaît à rêver que tout peut aller bien. Dans un monde où finalement, pendant un temps au moins, tout ce qui est mal peut être changé. C'est ce qu'on appelle la trêve de Noël, et on aime bien que les choses soient comme ça, on en a un peu besoin. Cela répond certainement à une aspiration qui se trouve profondément en nous. Maintenant, la réalité ne répond pas toujours à ces désirs, il faut bien le reconnaître. Et il faut avoir conscience, garder à l'esprit le fait que certains Noëls se vivent quand même très décalés. Des clichés très doux que je viens d'évoquer. Il y a des Noëls vécus dans la solitude, avec Michel Drucker comme seul vis-à-vis. Il y a les Noëls à l'hôpital, au SAMU, Noël où l'on attend quelqu'un qui ne vient pas. Et là, on se rend compte quand même que tout ne change pas juste parce que c'est Noël, et qu'il faut assumer la continuité des temps. Alors la Bible et Noël nous dit que Jésus est entré dans notre histoire, oui, dans l'histoire telle qu'elle est. Il est venu instiller dans cette histoire une réalité nouvelle. Et il veut nous aider aussi à vivre dans cette histoire avec la force qu'il nous communique. Et c'est dans ce sens où j'ai choisi ce texte qui nous dit vraiment qu'il nous a été donné pour vivre dans notre histoire. À la suite de la manifestation de Jésus-Christ, il nous a été donné un esprit, l'Esprit de Dieu qui veut être pour nous esprit de force, esprit d'amour, esprit de sagesse. Et c'est avec cela que Dieu veut forger en nous un caractère qui nous permette de vivre jour après jour une vie dans l'esprit de ce que le Seigneur a réalisé à Noël. Et c'est ce que nous voulons donc regarder, un caractère qui, une fois qu'il y a du caractère, qui nous permette de traverser les temps, ces temps dans lesquels le Christ est venu s'est incarné. Lorsque Paul parle à Timothée de ce que peut lui apporter la force et l'action de Dieu dans sa vie, de son esprit, il commence donc par la force. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné. Et il est question ici de la crainte par rapport aux circonstances, par rapport à tout ce qu'il faut affronter. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. La force, c'est l'énergie. La force dont il est question ici, c'est aussi le courage. C'est la résistance. C'est la solidité. C'est la détermination. C'est la volonté. Et ça nous rappelle que la vie chrétienne, tout comme la vie tout court, est parfois un combat, un rude combat dans lequel il faut pour lequel il faut de la force, de l'engagement. On le sait, on n'a rien sans rien. On ne construit pas si l'on ne s'investit pas véritablement. Rien dans ce monde ne s'accomplit, ne se construit véritablement sans volonté. Et même les dons de Dieu ne nous dispensent pas de mettre en œuvre cette force de la volonté. Et c'est une première chose que nous rappelle ici ce texte. Si nous voulons pouvoir vivre au travers des différentes circonstances qui sont les nôtres, nous avons besoin de recevoir cette force qui nous vient de Dieu, que l'Esprit de Dieu veut nous donner si nous nous attendons à lui. Et on le voit dans plusieurs exemples, cette nécessité de la force. Lorsque Dieu choisit un homme pour le servir, souvent il lui dit « Je vais te fortifier, je vais te fortifier ». Un exemple, Jérémie, prophète sensible à ce que ressentaient ceux qui étaient autour de lui et qui a été obligé de vivre dans un temps de malheur, dans un temps très éprouvant. Jérémie a été utilisé par Dieu avec sa sensibilité, mais il a dû aussi, et c'est Dieu qui le fait, qui le lui dit, je vais le faire pour toi, être rendu comme une colonne de fer, comme un mur d'airain. Ça dit au moins quelque chose de fort, de solide. Il fallait être capable de résister. Il a fallu de la force pour pouvoir tenir bon dans ces circonstances qui étaient bien troublées. Et nous savons que Jésus lui-même a dû durcir son visage au moment où il est monté vers Jérusalem, non pas d'une dureté à l'égard des gens, mais parce qu'il fallait véritablement trouver la résolution pour continuer à avancer vers ce qui n'était pas facile. La force. Il nous la faut, la force, à certains moments. Déjà pour avancer nous-mêmes. Il nous faut parfois la force juste le matin pour nous, quand nous nous levons en disant « je vais affronter ce qui est devant moi ». Pour persévérer aussi, il nous faut de la force. Parfois, il nous faut de la force pour recommencer quelque chose que l'on a commencé et puis qui a été laissé ou qui s'est délité. Il nous faut de la force. Et l'Esprit de Dieu qui nous a été donné veut être pour nous un esprit de force qui nous donne véritablement ses ressources pour faire face. Si nous le laissons agir en nous, si nous venons à Dieu régulièrement, il veut vraiment réaliser cela pour nous. Et je crois que c'est quelque chose que l'on peut vivre de manière très, très quotidienne. C'est une belle expérience que l'on fait. Un matin, par exemple, où ce n'est pas forcément facile, de se dire, on commence notre journée avec Dieu. On prend juste un temps où l'on écoute la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, où on prend un temps pour prier. Et on découvre ensuite que on a des ressources qui sont renouvelées. On découvre qu'on est un peu plus courageux pour entreprendre ce qu'on avait peut-être du mal à entreprendre. On découvre que l'on arrive à commencer quelque chose qu'on avait peut-être repoussé pendant un temps. On trouve des ressources. La parole de Dieu parfois nous donne une perspective, une promesse dont on peut se saisir et qui nous aide juste à avancer. Chaque fois que l'on vit cela, c'est l'esprit de force donné par Dieu qui nous a ressourcés. Ayons donc recours à cet appui jour après jour par rapport à ce que nous avons à affronter. Dieu veut être avec nous pour nous aider dans ces circonstances-là. Lorsque l'on parle de Noël, on souligne volontiers la faiblesse à laquelle Jésus a consenti lorsqu'il est venu vers nous. Et c'est vrai que les conditions qui ont été celles de Jésus en venant vers nous, celles de Marie, de Joseph, ont été vraiment des conditions de grande faiblesse, de grande précarité. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que la démarche qui a été faite a demandé la force à bien des moments, a demandé de la volonté. Du côté de Dieu, il a fallu choisir vraiment de venir, choisir de lancer le mouvement en quelque sorte, qui allait être si coûteux. Il a fallu surmonter aussi toute une série d'offenses. Le Seigneur est venu vers nous après que l'humanité l'ait offensé 10 fois, 1000 fois, des milliers de fois. Il a fallu surmonter tout cela pour pour venir. Ça demande de la force intérieure, de la force de l'amour. Et du côté humain aussi, pour Marie, pour Joseph, il a fallu la force d'un vrai oui à Dieu pour entrer vraiment dans ses plans et pour tenir bon même au moment où les circonstances étaient bien précaires. Nous avons besoin de force, mais Dieu veut nous la donner pour la vie de chaque jour. Mais cette force, elle doit être orientée. Cette force doit être orientée. Et la première orientation de la force, c'est l'amour. La force n'est pas au service de l'amour, si elle n'est pas domptée par l'amour, si elle n'est pas portée par l'amour, par la tendresse, alors ce n'est plus la force qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est la simple force de notre tempérament naturel. Et cette force-là, cette force de notre simple tempérament à nous, elle est d'une certaine manière la sosie, elle peut devenir même la rivale de cette force qui vient de l'Esprit. Car cette force, si elle n'a pas l'amour, elle peut facilement conduire au mépris, à la dureté, à l'orgueil. Les gens qui sont très sûrs d'eux, qui avancent toujours, sont parfois des gens qui écrasent les autres véritablement. Sans amour, la foi la plus forte et la volonté la plus grande ne comptent pas, ne sont rien, si on veut reprendre des mots de l'apôtre Paul. Et la vie de Jésus, lorsqu'il est venu vers nous, illustre magnifiquement le fait qu'il a manifesté une volonté, une force pour venir vers nous, mais tout entière au service de l'amour. Laissons donc cette force, cette énergie, cette volonté qui nous est demandée être toujours au service de l'amour. Et la deuxième orientation de la force, c'est la sagesse. La force et la volonté, si elles doivent se manifester dans nos vies de manière adéquate, doivent avoir de la sagesse, c'est-à-dire elles doivent tenir compte de la réalité, de la complexité des choses, de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas, de ce qui construira quelque chose ou de ce qui peut-être détruira les choses. Si la force ne distingue pas les choses, elle risque de devenir destructrice. Si la force ne distingue pas non plus l'essentiel du secondaire, si elle refuse la différence et la complexité, elle risque de se lancer alors dans des luttes aveugles. Des luttes aveugles où vraiment on se dit « je me bats pour quelque chose à fond, je justifierai que ce soit un bon combat, un combat valable, mais je risque de faire du mal ». Parce que je n'aurais pas pris en compte véritablement ce qui est en face de moi. Oui, il est important que la force ait cette sagesse de l'appréciation des choses, cette sagesse véritablement. Et Jésus, lorsqu'il est venu vers nous, a manifesté la même chose. Il a dit de Jésus qu'il ne faiblirait pas. C'est une prophétie du prophète Ésaïe qui dit « il ne faiblira pas ». Donc il aura de la force, il ira jusqu'au bout de ce qu'il doit faire. Il ne ploiera pas dans sa mission, mais en même temps, il a dit juste avant, il ne brisera pas le roseau qui se ploie, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Cette force, cette détermination que Jésus a manifestée, il la manifeste vraiment en tenant compte de la réalité des personnes qui sont en face de lui pour ne pas les écraser. Il n'a jamais eu une force de bulldozer, le Seigneur Jésus. Ça a été une force d'amour, une force de sagesse, de discernement de chacun. Oui, la force doit être inspirée par l'amour et guidée par la sagesse. Et une foi qui a du tempérament, pour être à l'image de Jésus venu vers nous, doit être volontaire, mais de cette volonté-là, cette volonté portée par l'amour et vraiment pleine de sagesse. Deuxième trait qui marque, très marquant, disons, pour dire un tempérament qui nous permettra de traverser les circonstances à la façon de Jésus et en étant porté par l'Esprit qui a animé Jésus, c'est l'amour. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors l'amour, c'est ce qui fait l'être même de Dieu, ce qui fait la vie même de Dieu. C'est l'expression la plus naturelle de ce qu'est Dieu, de son être, de sa vie. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense est porté par l'amour en permanence. C'est l'amour qui a inspiré toute l'œuvre de Dieu depuis la création jusqu'à la rédemption, jusqu'au salut qu'il est venu nous offrir en Jésus-Christ. Et si l'on essaye de penser à ce que Dieu a fait tout au long de l'histoire, ce n'est qu'une longue histoire d'amour, qu'une longue histoire d'amour et d'amour persévérant. Et nous serons certainement éblouis lorsque nous verrons, une fois que cette œuvre sera pleinement achevée, lorsque nous verrons vraiment la beauté magnifique de cet amour et du triomphe de cet amour. Nous serons éblouis aussi certainement lorsque nous verrons toute la somme d'amour que Dieu a mise en œuvre pour réaliser toute chose, pour venir vers nous, pour nous sauver, pour nous accompagner dans notre vie, pour nous faire grandir, pour travailler les circonstances, pour nous aider, nous soutenir, nous faire tenir. C'est dans l'amour vraiment que toutes les vertus trouvent leur accomplissement. Et l'amour résume vraiment aussi ce que Dieu nous demande, ce qu'il attend de nous comme réponse à notre part. Et nous avons besoin que cet esprit vraiment répande cet amour-là dans notre cœur, le crée comme un fruit qui demeure, un fruit qui nous anime. Et alors on pourrait avoir l'impression, quand on a parlé comme cela de l'amour, de se dire qu'une fois qu'on a prononcé ce mot, on a tout dit. Et qu'on a dit l'essentiel, il n'y a plus grand-chose à ajouter. Et pourtant, je crois qu'il est intéressant de penser au fait que même l'amour doit être conjugué avec la force et la sagesse. Car l'amour sans force, que serait-il, l'amour sans force? L'amour sans volonté pour le porter. L'amour sans force, sans volonté, se réduirait à des mots, se réduirait à des vagues sentiments. L'amour sans force n'est que parole un peu mièvre, finalement. Il se réduit à un apitoiement en parole, à des formules générales, mais qui n'auraient pas vraiment de portée concrète. Il peut devenir comme une sorte de faiblesse, même sans colonne vertébrale. Quelqu'un qui aime sans avoir de volonté, peut-être simplement quelqu'un qui se laisse diriger par les uns les autres au gré de ce que l'un désire ou l'autre désire. L'amour, pour tenir, a besoin d'une colonne vertébrale, a besoin de force. Et l'amour vrai, qui est don de Dieu et fruit de l'Esprit, a cette force, il est fort, il est vigoureux. Il est agissant d'une compassion active, en aide effective. Il est agissant comme en forme d'engagement sérieux. Et nous savons que l'amour que Jésus-Christ a manifesté quand il était sur cette terre a su s'indigner face au mal. Il a su reprendre les gens quand il le fallait. Il a su dénoncer le péché, l'erreur. Il a su aussi être persévérant, être patient. Il a su être formateur pour ses disciples, et cela aussi, ça demande de la force et de l'accompagnement que de dire « je continue à te faire grandir, à t'aider à avancer ». Il a su enfin affronter le mal et prendre sur lui les conséquences du mal lorsque le Christ est mort sur la croix, qu'il a pris sur lui le poids, le prix de nos fautes pour nous en délivrer. Oui, l'amour a besoin de force, a besoin de force, a besoin de volonté. Et l'Esprit veut vraiment conjuguer en nous l'amour et la force. Mais notre amour a besoin aussi de sagesse. Et il est bien de prendre cet autre plan. Et parce que si notre amour n'a pas de sagesse, il risque simplement de nous ouvrir un petit peu naïvement à tout ce qui survient, à tout ce qui va nous solliciter. Si notre amour n'est pas capable de faire la différence entre les choses, à évaluer, à pondérer, il va peut-être devenir comme une sorte de girouette où l'on est emporté sans rien construire finalement. Notre amour a besoin de sagesse, a besoin de discernement. Paul prie lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de l'église de Philippe, il leur dit que votre amour augmente, qu'il grandisse pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Et la sagesse, vraiment, est nécessaire aussi à l'amour. La sagesse doit orienter l'amour pour que nous distinguions ce qui mérite vraiment de solliciter le meilleur de nous-mêmes. La sagesse doit aussi orienter notre amour pour qu'il se manifeste en toute sensibilité, de manière adaptée aux personnes, de manière adaptée aussi aux situations. Si on manque de sagesse, on peut, avec de très bons sentiments, faire des dégâts immenses. Un mot de travers, on le sait, peut parfois gâcher des sentiments très sincères que l'on a voulu exprimer. Oui, l'amour a besoin de sagesse. De sagesse aussi parfois pour reconnaître qu'il ne peut pas tout, pour reconnaître qu'il y a certaines limites. Il faut aussi de la sagesse si l'amour veut durer, s'il veut persévérer. La sagesse pour savoir calculer aussi ce que l'on peut faire, jusqu'où aller si l'on veut durer. Et nous savons que même notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est entré dans notre monde, dans l'espace, dans le temps, a dû assumer ces réalités-là. Son ministère aussi s'est limité à une région donnée. Il n'a pas pu faire tout à tout moment, il a dû se restreindre. Malgré sa magnifique disponibilité, il a dû faire des choix. Il n'a pas pu s'occuper absolument de tous ceux qui auraient peut-être souhaité le voir, ou qui auraient souhaité lui parler, ou être aidés par lui. Il a fallu aussi, pour Jésus, respecter les temps, respecter les moments. Il a accepté de naître comme un enfant. Il a dû accepter aussi qu'il y a eu un temps où ils doivent grandir, se former. Et Jésus, finalement, quand on considère sa vie, a passé plus de temps à se former et à acquérir une pleine maturité qu'à agir concrètement dans son ministère public. Il a fallu respecter aussi ces étapes. Et c'est une sagesse que de respecter ces étapes, les temps de préparation en vue d'une utilité meilleure. Oui, l'amour a besoin de force, de volonté, mais l'amour a besoin aussi de toute la sagesse de Dieu. Et c'est ce que l'Esprit veut nous apprendre, c'est ce que l'Esprit veut produire dans notre vie. Et c'est ainsi que nous arrivons à la troisième composante principale d'une foi qui aura du caractère, et on le voit, le caractère qui se dessine, c'est un caractère qui ressemble à celui de Jésus-Christ. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, donc de volonté, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. La sagesse, nous l'avons déjà dit, c'est être capable de prendre la réalité telle qu'elle est. C'est d'être capable de tracer notre chemin en tenant compte vraiment de cette réalité telle qu'elle est. La sagesse, c'est l'art de distinguer les priorités, de distinguer ce qui est essentiel, ce qui l'est moins. La sagesse, c'est aussi la capacité de distinguer, de discerner ce qui est possible par rapport à l'idéal, et d'accepter de mettre en œuvre ce possible, même lorsque tout n'est pas idéal. Ça aussi, ça fait partie de la sagesse. La sagesse, c'est aussi parfois savoir faire la part des choses entre une personne et ses actes. Ne pas juger juste quelqu'un parce qu'il ou elle a fait ceci, nous rappeler qu'il nous arrive à tous de ne pas être complètement à la hauteur de nos intentions. La sagesse, c'est aussi arriver à faire la part des choses entre les tolérances qui sont nécessaires parce que nous sommes différents, parce qu'on ne pense pas tous pareil, et le souci de la vérité, parce que tout ce qui se pense n'est pas vrai et ni digne d'assentiment. Et ce n'est pas toujours très facile, d'un côté, de savoir être tolérant et de savoir où sont les limites, de dire là, il y a quelque chose à défendre véritablement. La sagesse, c'est d'apprendre à discerner les temps, les moments, ce qui peut se construire, ce qui peut contribuer au bien, les moments où telle action sera adaptée ou pas adaptée. Oui, nous avons besoin vraiment de cette sagesse. Et nous savons que lorsque Jésus est entré dans le monde, il a dû lui aussi accepter de faire face à cette complexité des personnes, à cette complexité des situations, des comportements. Voyez le nombre de questions qu'on lui a posées. Voyez les situations qu'on lui a soumises. Et il a accepté d'avoir besoin, jour après jour, du secours et des lumières et des inspirations de l'Esprit de Dieu qui était sur lui pour la sagesse de chaque jour et de chaque situation. Il a accepté aussi la discipline de chercher dans l'Écriture, jour après jour, les lignes de conduite et d'orientation pour son action. Et c'est très frappant de voir l'attachement de Jésus aux Écritures mêmes. Donc la sagesse et ses sources. Mais en même temps, une fois qu'on a dit cette nécessité de la sagesse, il faut souligner que cette sagesse, elle aussi, a besoin d'être conjuguée avec la force et avec l'amour. Qu'est-ce que serait une sagesse sans force? une sagesse sans force, une sagesse sans volonté. Ce serait une sagesse qui ne resterait que pure sagesse et qui ne déboucherait jamais sur l'action. Elle resterait purement intellectuelle, simplement réflexion, toujours à calculer le pour et le contre, toujours à jouer les nuances. Mais sans la force, sans la volonté de s'engager, elle risque de se réduire à une sorte de jeu de l'esprit ou à une simple analyse des choses. Et la sagesse, aussi précieuse qu'elle soit, a besoin aussi de la volonté pour agir vraiment. Si l'on reste simplement dans la pensée sans véritablement agir, on risque de rendre difficile peut-être l'action pour les autres. Alors les plus optimistes encourageront les autres à agir. Les plus pessimistes souligneront toujours toutes les difficultés devant chaque situation. Hein, et puis, ou toutes les prudences nécessaires. Et ce sera très dur après pour les autres d'agir avec toutes ces perspectives-là. Les esprits les plus aigus, parfois, pourront stériliser l'action en multipliant les analyses dans tous les sens. Et puis, ce qui fait que ceux qui doivent agir après ne savent plus trop où ils en sont parce qu'on est constamment emporté par toutes sortes de schémas compliqués. Et on a l'impression que la réflexion aura rendu plus compliqué ce qui semblait à peu près clair au départ et réalisable. La sagesse a besoin de force parce qu'il faut s'engager véritablement. Il faut s'engager, il faut se confronter à la réalité. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas seulement de penser juste, mais c'est de penser et d'agir de manière juste dans le monde. La sagesse a besoin de force parce que le plan de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose qui doit être conçu, qui doit être admiré intellectuellement, mais le plan de Dieu, c'est quelque chose qui doit se réaliser, qui doit changer les choses, qui doit entrer dans la réalité. Et Jésus a toujours manifesté cela aussi. Il a su parler de Dieu, il a su faire comprendre, encourager, donner des perspectives, oui, mais il a su aussi, au moment où c'était nécessaire, se mettre à l'œuvre et se dire « maintenant, on avance ». Un exemple très, très parlant est le moment juste avant sa passion. Juste avant sa passion, il a pris le temps de préparer les disciples à ce qu'elle allait venir, à les enseigner, les encourager. Il leur a donné la sagesse pour les temps qui étaient devant eux. Et puis, après avoir fait cela, il a eu un mot très fort, il a dit « Et maintenant, levons-nous, partons d'ici ». Ils étaient là dans la chambre où ils avaient pris le dernier repas ensemble. Jésus avait annoncé sa mort, mais il dit « Maintenant, il faut y aller ». Et ça nous montre que cette sagesse que nous recevons a besoin vraiment de concrétisation. Et c'est à cette décision-là, ce soir-là, que nous devons, entre autres, notre salut. Hein, si Jésus était resté dans la chambre-là, rien ne se serait passé et nous serions encore dans nos fautes. La sagesse, donc, a besoin de force. Mais la sagesse a aussi besoin d'amour. Parce qu'une sagesse sans amour deviendrait une parole détachée, une analyse froide qui manque de chaleur. Les mots peuvent être justes quand il n'y a pas d'amour, mais on ne se sent pas vraiment concerné. Hein? Sans amour, sans souci pour les personnes, la sagesse peut devenir, peut ressembler à une sorte d'analyse un petit peu détachée. Et la sagesse a besoin vraiment de cet amour pour vraiment toujours rejoindre les personnes, rejoindre chacun. Elle a besoin de l'amour aussi pour savoir vraiment approcher chacun, chaque situation, dans sa vérité, en essayant de comprendre au mieux chacun dans ce qu'il vit. La sagesse a besoin d'amour parce qu'elle est au service de Dieu, elle est au service du bien, elle est au service de chacun sans distinction. Et si elle n'a pas cet amour, elle risque, et cet amour qui la porte vers les autres, elle risque de devenir quelque chose où elle tourne sur elle-même et où on peut finalement se glorifier de sa propre sagesse. C'est dans la lumière de Dieu, dans la lumière d'un vrai service, que l'on peut recevoir la pleine lumière de sa sagesse, et le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, ce respect profond, ce respect aimant du Seigneur. Et Jésus aussi nous a montré le visage d'une sagesse qui est profondément aimante. Il a su toujours adapter ce qu'il enseignait aux personnes qu'il rencontrait. Jamais personne ne s'est senti rejeté par le savoir de Jésus, par sa sagesse, par tout ce qu'il était. Personne ne s'est senti rejeté, mais il s'est mis au service de chacun. Et toutes les lumières qui étaient les siennes, il a vraiment voulu les communiquer. Chez lui, la parole et l'acte ne faisaient qu'un. Il a su parler aux érudits, il a su embrasser les enfants, il a su manger avec les rejetés, se faire comprendre des gens simples, intéresser des gens les plus savants, et faire comprendre à chacun qu'il comptait pour Dieu. Oui, la sagesse a besoin de l'amour. La sagesse donne toute sa lumière dans l'amour. Alors que sera pour nous une foi qui a du caractère? Une foi qui nous permettra de passer au-delà des simples parenthèses, et qui ne se vivra pas simplement comme une parenthèse d'un moment privilégié. Une foi qui aura du caractère sera justement une foi qui conjuguera ces trois éléments. La force, la volonté, l'amour et la sagesse. Et si nous voulons véritablement continuer à marcher dans la ligne du Seigneur qui est venu vers nous, c'est en laissant finalement ce caractère de Jésus-Christ être modelé en nous dans la vie de chaque jour. C'est ainsi que nous pourrons vraiment honorer aussi le Seigneur qui est venu vers nous. Oui, honorer sa venue, c'est chanter Noël, c'est nous réjouir vraiment de ce qui a été fait. Et nous allons le faire encore cet après-midi et dimanche prochain aussi. Mais honorer la venue du Seigneur, c'est aussi lui demander qu'il puisse produire en nous vraiment les qualités qu'il a manifestées lui-même en s'approchant de nous. Et je dirais que c'est une autre manière pour nous de vouloir vivre Noël. Alors que pour chacun de nous, la présence de Dieu, sa vie, puisse se manifester ainsi pour nous. Que l'Esprit de Dieu se manifeste jour après jour et de plus en plus comme l'Esprit du Christ. Et qu'il développe, qu'il fasse grandir en nous jour après jour la force, la volonté pour avancer, l'amour toujours ouvert vers Dieu, vers les autres, et la sagesse qui prend en compte les situations. Amen.